Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Catastrophe de Calais au sud Kivu. Une mission gouvernementale vole au secours des sinistrés. Il s'agit de leur remettre la deuxième partie de l'assistance. La délégation est conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Plusieurs villages presque vidés de leurs habitants le long de la route Komanda-Luna en Ituri. En cause, l'activisme des rebelles ADF. Téné, dimanche dernier, ces rebelles ont incendié 7 camions chargés de marchandises en provenance du Nord Kivu. Certains habitants sont quand même restés sur place, espérant que le gouvernement mette fin à ces exactions. Et puis, au Maniema, le taux d'incidence et de létalité du paludisme reste élevé dans cette province, ce malgré les efforts et les moyens mis en place pour lutter contre cette maladie. Constat du chef de projet paludisme au sein de l'ONG Waki Maniema, le docteur Béa Akungé est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Sud Kivu, le Premier ministre congolais est arrivé samedi à Calais et sur les sites des sinistrés du 4 mai dernier, ayant fait des centaines de morts. Jean-Michel Samalukonde est accompagné des membres du gouvernement central et des députés nationaux. L'objectif de cette mission est de remettre aux survivants la deuxième partie de l'assistance. Emmanuel Elamejiwa Kabedi était sur place.
Le Premier ministre congolais est venu personnellement remettre la deuxième partie de l'assistance du gouvernement congolais aux sinistrés de Bushushu et Nyamukubi à Calais. L'assistance est composée de matelas, de sacs de farine de maïs, du riz, du sel, des savons, des ballots de friperie et bien d'autres encore. La remise de cette assistance a eu lieu sur le site de Nyamukubi. Par contre, sur le site de Bushushu, Jean-Michel Samalukonde, au bord d'un engin de l'office de route, a donné le coup d'envoi des travaux de la réouverture de l'axe Bushushu-Nyamukubi sur la RN2. Les défis de la délocalisation digne des sinistrés et la prise en charge médicale sont au compte du gouvernement congolais. Aux côtés des membres du gouvernement central et des députés nationaux, le Premier ministre est accompagné à Calais par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kassi Ngwabidje. De Bushushu à Calais, Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Radio Kapi.
Visite du chef de l'État en Chine. Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Shanghai hier, où il a visité des projets de batterie d'énergie de l'entreprise CEMOC, le village de démonstration et de revitalisation rurale de Shanghai, ainsi qu'une plantation agricole. Les discussions conjointes avec les entrepreneurs ont précédé sa rencontre avec les autorités de la deuxième ville de la Chine. Notez qu'avant de s'envoler pour Shanghai, le président de la République a été à la base d'exposition militaire de Norinco et à l'Institut de technologie de la force de China Aerospace Air. Autre nouvelle, le FPCN, Front pour un Congo Nouveau, encourage et félicite la CENI dans la mise en œuvre des différentes étapes du processus électoral avec le dépôt de l'avant-projet de loi à l'Assemblée nationale au terme de son premier congrès tenu samedi à Kinshasa. Claude Nyamugabo, président national de ce parti politique, investi à ce poste à cette même occasion, appelle tous les sympathisants du parti FPCN de se mobiliser pour participer aux futures élections à tous les niveaux au cours de ce congrès. Le FPCN a réitéré son appartenance à l'Union sacrée et de ce fait soutient la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle de décembre prochain. Claude Nyamugabo s'explique au micro de Billy Van Lutumba.
Les membres du FPCN sont membres de l'Union sacrée de la Nation. Et l'Union sacrée de la Nation, notre plateforme politique, tient à l'organisation des élections. Nous nous sommes pressés de donner un deuxième mandat à notre candidat Félix Tshisekedi. La CENI, nous constatons tous qu'elle fait correctement son travail. Elle vient de transmettre par les biais du vice-premier ministre à l'intérieur l'avant-projet de loi pour permettre de désigner les circonscriptions électorales ainsi que le nombre de députés, tant nationaux que provinciaux. La CENI fait donc son travail et nous attendons des pieds fermes que l'Assemblée nationale examine très rapidement ce projet de loi en vue de doter notre pays de cette loi et cap donc vers l'enregistrement des candidats en juin 2023, cap vers les élections en décembre 2023.
Par ailleurs, le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tenge, affirme que l'opposition maintient ses marches chaque jeudi pour dénoncer le processus électoral chaotique. Il a dit au cours d'un point de presse tenu samedi au siège du parti à Kinshasa. Il a par la même occasion fustigé la justice à double vitesse et les propos tribaux de certains hommes politiques. Le député national estime que l'audit du fichier électoral est une vaste blague. Il est important que les acteurs politiques trouvent un consensus pour des bonnes élections, a dit Dieudonné Bolenge Tenge au micro de Vanessa Nkongolo.
Comment voulez-vous faire un audit par des acteurs tout venants choisis par ceux qui ont fait les fichiers audit? C'est les gens qui étaient audités, dont le travail devrait être audité, qui ont choisi des amis à gauche, à droite. Ils ont constitué une petite équipe hétéroclite à qui ils ont donné 5 jours. Ils n'ont pas audité rien du tout, même pas un quart de ce qui devrait être l'audit. Ils sont venus se promener, ils ont empoché leur cagnotte, ils ont signé un rapport produit par la CENI, ils appellent ça audit. Il y a des gens qui ont vraiment choisi de se moquer de l'avenir de plus de 100 millions de personnes. Tout simplement parce qu'ils veulent voir leur ventre rempli, ou leur poche, ou leur compte. On ne combat pas le président Tshisekedi. On combat des principes et des manières de faire qui ont tendance à garder le peuple congolais dans un statut de mineur. Ça, on n'accepte pas. C'était une mascarade. Nous manifestons pour attirer l'attention sur ce qui n'est pas correct dans les processus électoraux. C'est une manière pour nous de faire prendre conscience à la population congolaise qu'un jour de vote engage 5 années de vie. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de s'élever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés.
Et puis, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, appelle la population de la province du Kwilu à voter pour des personnes capables d'améliorer leurs conditions de vie sociale. L'opposant Augustin Matata Ponyo, président de ce parti, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kikwit. Matata Ponyo est au micro de Paul Matendo Mayamba.
La population de Kikwit, la population de Kwilu en a marre. Elle veut se libérer. La population a besoin d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité. La jeunesse a besoin du progrès, elle a besoin du développement. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et le message que nous avons passé, c'est ce message-là. Appeler cette fois-ci la population de Kikwit, de Kwilu, d'élire des hommes et des femmes capables d'améliorer leurs conditions de vie. C'est ça le message profond. Et voilà pourquoi le maire de la ville m'a interdit de venir ici. Parce qu'il savait que c'est ce message-là que je vais passer. Et c'est ce message-là que le peuple de Kikwit veut entendre, veut écouter. Et nous n'allons plus blaguer sur cette question. Nous devons informer, éduquer la population que cette fois-ci qu'elle élise le meilleur d'entre eux, les jeunes, pas ces gens-là qui viennent les tromper avec les tricots, qui viennent tromper avec des promesses irréalisables. Cette fois-ci, nous voulons que le peuple de Kwilu, le peuple de Kikwit, élise le meilleur d'entre eux.
Et selon Franklin Tshiamala, secrétaire général de LGD, Matata Ponyo a été empêché par les autorités locales de s'adresser à la population à Kenge et à Massimanimba. Direction l'Ituri, je vous l'ai dit dans les titres, plusieurs villages qui se trouvent le long de l'axe Komanda-Luna sur la nationale numéro 4 sont quasiment déserts. C'est à cause de l'activisme des rebelles de l'ADF qui commet de nombreuses exactions. Le dernier incident est celui enregistré le 21 mai dernier où ces rebelles ont mis le feu sur 7 camions transportant des marchandises en provenance du Nord Kivu. Malgré ce climat d'insécurité dans la zone, certains habitants décident de rester dans ces milieux où ils disent mener une vie de calvaire. Jean-Claude Loki est allé à leur rencontre. Voici son reportage.
Il est 10h locale lorsque nous embarquons à bord de notre 4x4. C'est un cortège de 7 jeeps de la MONUSCO et des soldats des FADC qui prend la route de Sosa. Sur place, nous retrouvons Roger Kambalé, la quarantaine révolue, qui visiblement revient du champ, assis à côté de son fils d'environ 3 ans. Il nous raconte son calvaire.
Nous vivons ici, la peur au ventre qui tira au chat avec le risque de tomber dans les mains de l'ennemi. Pas de moyen de se procurer de sel. Nous mangeons notre nourriture sans sel ni huile. Difficile également de trouver des médicaments. Même des animaux vivent mieux que nous autres.
Le long de cet axe de près de 15 km, c'est un silence de cimetière qui règne. À certains endroits, on aperçoit des soldats défadécés à effectifs réduits qui sécurisent la zone. Sur une route délabrée à cause des eaux de pluie, des motards en provenance de champs, d'autres qui viennent du Nord Kivu prennent le risque de parcourir ce tronçon. Et pourtant, à Pindili 2, nous traversons sur le centre des épaves des camions. Ici, des présumés ADF venaient de brûler 7 camions avant que l'armée ne sauve une dizaine d'autres. Le rêve de ces habitants est de voir le gouvernement mettre fin à la sécurité pour leur permettre de mener une vie normale. De retour des Sosa, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Kapi.
Nord Kivu, signalant l'inauguration et ouverture officielle vendredi dernier du centre de PDDRCS de Kassando Kaina au sud du territoire de Lubero. C'est l'administrateur de Lubero qui a procédé à l'inauguration de ce centre en présence des responsables du PDDRCS. Plus de 100 combattants venus des différents groupes armés, des Maïmaï notamment, y sont cantonnés dans le cadre du processus des démobilisations, désarmements et réinsertions. Ces combattants s'y sont rendus avec leurs armes. Le chargé de communication du PDDRCS appelle toutes les couches sociales, les autorités locales ainsi que les groupes armés de s'approprier ce programme afin de donner la chance à la paix dans cette partie du Nord Kivu. Amini Mumbere, joint par Denise Lukeso.
Nous avons aujourd'hui au moins 108 combattants qui se sont rendus et venir accompagner la vision du chef de l'État qui est le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Tous ces combattants qui se sont rendus sont venus de différents groupes armés dont NDC Rénové de Guido, de l'IPLC du général autoproclamé Mayani, du FPP Bar AP, et il y a d'autres qui sont venus de la force de Bakumbure et tant d'autres. Et aujourd'hui, ces combattants sont en train de venir massivement. Il y a eu remise d'armes officielles avec les plus petits combattants qui a remis symboliquement l'arme pour montrer à tous les autres groupes armés d'emboîter le pas dans ce programme, pour montrer en face du monde que tout le monde a besoin de la paix, rien que la paix. Nous demandons au gouvernement ainsi que toutes les autorités de s'approprier tous ces programmes.
Dans l'actualité, notez aussi qu'une dizaine de femmes journalistes de Beni et Butembo ont bénéficié d'une formation de 4 jours à Beni qui s'est clôturée hier samedi. Il s'agit d'un renforcement en capacité sur des notions de base en journalisme, formation organisée par le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Koracon en sigle. Les bénéficiaires se disent satisfaites des notions apprises qui vont leur permettre de mieux s'élancer dans l'exercice du métier. Sadiki Aboubakar, reportage.
Koracon dit avoir constaté que dans la plupart de ses médias partenaires, il n'existait pas de femmes. Dans quelques-unes des radios et télévisions où on trouve des femmes, celles-ci jouent le rôle pour la plupart des réceptionnistes, comptables et d'autres fonctions qui les empêchent vraiment d'exercer, bien que certaines disposent des atouts nécessaires pour le journalisme. C'est ce qui les a motivés à organiser cette formation uniquement pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on leur a appris concrètement ? Gisèle Baheni, chargée du genre au sein de Koracon, explique.
Comment choisir le sujet et l'angle journalistique? Comment rédiger un papier journalistique? Comment préparer et réaliser une interview?
Priscille Voutsapou est étudiante en sciences de l'information et communication, en même temps journaliste à la radio La Voix de l'Université de Semouliki, VOS Beni. Elle s'est dit satisfaite des notions apprises.
Nous sommes plus penchés dans la pratique et ça nous a permis de briser la peur que nous avions dans nos rédactions étant que femmes.
Souriante Tassigna est de la radio Mungano Beni. Pour elle, cette formation lui a permis de combler certains vides.
Je peux dire qu'on m'a complété quoi.
Pour la pratique, ces femmes journalistes vont devoir réaliser des magazines sur 3 thématiques. Il s'agit de l'état de siège, la sécurité et la promotion de la femme. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et en Ituri, 30 nouveaux médecins ont prêté serment d'Hippocrate devant l'officier du ministère public ce week-end à Bunia. Ils sont désormais inscrits à l'ordre des médecins de la RDC. Le président de l'ordre des médecins de la RDC parle d'une grande contribution dans l'administration des soins de qualité en Ituri. Toutefois, il leur exhorte à plus de professionnalisme. Martial Kizabiamungu, reportage.
Au moment d'être admis au nombre des médecins, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. J'exercerai mon acte.
C'est par ces mots que ces 30 jeunes médecins ont géré devant Dieu et l'État d'exercer leur profession de médecin avec dignité et professionnalisme. Venus de plusieurs universités de la RDC, ces nouveaux diplômés demandent l'implication du gouvernement pour relever les défis de l'emploi auxquels ils sont confrontés au terme de leur formation. Docteur Roger Ounenou, vice-président de l'Ordre des médecins de l'Ituri, tout en encourageant les lauréats, les appelle à se former régulièrement pour être à mesure à faire face à l'évolution constante de la médecine.
Que la médecine évolue du jour au jour. Ils ont appris à l'école, peut-être c'est 20 à 40% des choses qu'ils ont appris à l'école. Mais sur terrain, ils vont se retrouver encore avec beaucoup de choses. Ils doivent lire et relire encore. Et ils doivent respecter l'éthique et déontologie pour être des bons médecins dans la société.
Ces 30 médecins s'ajoutent à plus de 800 que compte la République démocratique du Congo. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Les sites internet de l'État sénégalais ont été touchés vendredi soir par une cyberattaque. Un compte Mysterious Team s'est réclamant du groupe des pirates informatiques Anonymous a revendiqué sur les réseaux sociaux avoir paralysé les sites de la présidence, du gouvernement, des ministères des forces armées et de la santé. Ces sites étaient à nouveau opérationnels samedi matin. Mysterious Team s'est dit solidaire des citoyens sénégalais et de leur droit à choisir librement leur président. Cette attaque intervient alors que l'opposant Ousmane Sonko a entamé vendredi un retour à haut risque à Dakar, un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par la route dont il entend faire une caravane de la liberté et une démonstration de force.
L'invité.
Il nous vient du Maniema. Le taux d'incidence et de létalité du paludisme sont toujours élevés, cela malgré les efforts et les moyens mis en place pour lutter contre cette maladie. Constat du chef de projet de paludisme au sein de l'ONG Ouaki Maniema, le docteur Béa Kung Etienne est notre invité. Il explique la situation dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Docteur Béa Kung Etienne, bonjour.
Bonjour madame.
Dans votre rapport présenté aujourd'hui, montre que les chiffres sur l'incidence du paludisme ne fait qu'augmenter au Maniema. Qu'est-ce qui explique ces décalages entre les moyens mis en place et ces maigres résultats?
Merci madame pour la question. La province du Maniema, c'est une province endémique en termes de paludisme. Et notre bailleur, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH, le SIDA, a mis en place un certain nombre de moyens, des stratégies qu'on a arrêtées avec le pays pour réduire cette incidence au niveau de notre province, qui est encore à 247 pour 1000 habitants, et la mortalité qui est encore au niveau de 1,2%, alors que le pays voudrait que l'incidence soit au niveau de 125 et cette létalité soit au moins au niveau de 0,75%. Les moyens mis en place sont des moyens de prévention, les moyens de prise en charge et la dotation régulière en médicaments. Alors, les médicaments sont là et on doit les mettre à la disposition des zones de santé. Nous sommes confrontés à un sérieux problème en termes de praticabilité des routes. Les routes sont difficilement praticables, ce qui fait que ça nous pose des problèmes pour acheminer les intrants. Nous disposons de tous les moyens, nous mettons tous les moyens en route pour que les intrants quittent la province et atteindre les 18 zones de santé que nous sommes en train de desservir.
À quel niveau faut-il situer la responsabilité?
À ce moment ici, nous situons la responsabilité des parts et d'autres. Je donne deux exemples. Acheminer les intrants aujourd'hui, quitter Kindu avec des véhicules pour acheminer les intrants jusqu'à Kasongo, nous avons l'obligation de les faire en l'espace de 27 jours, mais nous allons au-delà de ces délais-là à cause du mauvais état de la route. Notre gouvernement peut nous aider à avoir des routes qui sont praticables, de sorte que si nous nous engageons avec un véhicule pour acheminer les intrants, que ces intrants arrivent au point voulu, en temps voulu, madame.
Face à ces défis, qu'est-ce qu'il faut faire davantage?
C'est avoir des routes praticable. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire les médicaments qu'on met à notre disposition par le bailleur, le Fonds mondial que j'ai cité plus haut, ces médicaments sont d'abord des médicaments de qualité. Et compte tenu des exigences du programme, nous devons acheminer ces médicaments en l'espace de 3 semaines, tout au plus 27 jours, et servir toutes les zones de santé pour la période déterminée. Au-delà de ces délais-là, les médicaments courent le risque de se détériorer, et dans ces conditions-là, on risque d'amener à la population des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, le gouvernement peut nous aider pour réhabiliter les routes, de sorte que tout ce que nous avons de disponible comme intrants pour acheminer dans les zones, on les fasse en temps voulu, dans la période déterminée, et acheminer les médicaments de bonne qualité. Je sais que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais nous allons multiplier les efforts, mettre en place des mécanismes, des stratégies pour réduire un tant soit peu cette incidence élevée et cette létalité élevée. Les bailleurs mettent à notre disposition tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour aider cette population et les mettre à l'abri de ces fléaux que nous appelons aujourd'hui le paludisme. Ce qu'on va demander, c'est que le gouvernement nous aide à avoir des routes bonnes pour que tout ce que nous avons, surtout les médicaments, que nous les acheminons en temps voulu, à l'endroit déterminé, et pour que la population bénéficie des médicaments de bonne qualité.
La lutte contre le paludisme inspire un certain nombre de mesures et règles. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur les mesures préventives, docteur?
Le paludisme, je l'ai dit, il est provoqué par l'anophèle, la moustique anophèle. Et lui, il est à l'aise dans un environnement malpropre. Donc la première chose qu'on va demander à la population, c'est assainir d'abord notre environnement, nous tous. Et au-delà de ça, utiliser tout ce qu'on met à notre disposition comme moyen. J'attends par là, dormir sous la moustiquaire. Utiliser tous les intrants qu'on met à notre disposition pour soigner un épisode quelconque de malaria. En plus de tout ce que je viens de dire, madame, les formations sanitaires à travers les infirmiers titulaires, chaque mois, ils sont appelés à venir récupérer au niveau des bureaux centraux des médicaments qu'ils vont mettre à la disposition de la population. Que ce soit au niveau des formations sanitaires, que ce soit au niveau des sites de soins, la prise en charge du paludisme est gratuite, garantie. C'est ici l'occasion d'inviter la population, dès qu'il a tous les signes, de fréquenter la structure sanitaire proche de son habitation, où les médicaments sont disponibles gratuitement. Contre le paludisme, vous n'allez débourser aucun rond. Vous arrivez, on vous donne les médicaments et vous soignez votre maladie, la malaria.
Docteur Béa Akungé Etienne, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame, pour cette opportunité que vous m'avez donnée.
Le chef de projet paludisme au sein de l'ONG Waki Maniema répondait aux questions de Florence Kiza. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.